Ah, ça marche.
Là, il marche.
Ouais, là, c'est bien.
Et bon, du coup, les brèves, on va commencer. Je vais faire son son, et puis voilà. La saison des mobilisations reprend dans les écoles lyonnaises. Enfin, les vacances sont finies, quoi, puisque on va dire que c'est un peu toute l'année dans les écoles lyonnaises, la saison des mobilisations. Du coup, comme chaque année, les parents d'élèves et des enseignants se mobilisent aux côtés d'autres parents d'élèves pour essayer de les mettre à l'abri. Depuis donc la semaine dernière, le 17-09, il y avait l'école Gilles Perdru qui était occupée pour 13 enfants et leurs familles. Avant-hier, c'est l'école Montaigne Ferry dans le 6e arrondissement. Oui, Gilles Perdru, j'ai pas précisé, mais c'est celle dans le 7e arrondissement qui est toujours. Je sais pas comment il se débrouille. Montaigne Ferry dans le 6e est occupée depuis le 25-09, soit avant-hier, pour 2 enfants et leur famille. Et Charial, dans le 3e, est occupé depuis hier pour 5 enfants et leur famille. Et aujourd'hui, on apprend que Anatole France à Vénissieux, une mobilisation a débuté. Alors pour l'instant, les parents d'élèves n'occupent pas l'école dans ce cas-là. Les 3 autres sites étaient occupés. Mais ils font des récoltes de fonds pour l'instant pour loger les familles des élèves.
Tac. Alors, ah oui, ça y est. Eh bien, Bruno Le Maire, on va parler passoire thermique, qui était favorable hier à une révision du calendrier pour décaler l'interdiction de louer des passoires thermiques à des gens au vu. Et donc, il décidait de décaler cette révision au vu de la crise du logement qui s'annonce. Mais il a décidé de faire machine arrière après des critiques émanant de son propre camp. Il a donc déclaré qu'il ne s'agissait pas de reporter l'interdiction, attention, on avait mal compris son propos, mais de, je le cite, « réfléchir à la manière dont on peut être plus simple et plus clair pour nos compatriotes ». Alors, on peut décrypter, comprenez, on ne touchera pas au calendrier, mais un bottin de dérogation sera mis en place pour contourner le dispositif et ainsi permettre aux propriétaires de continuer à louer leur passoire.
Et du coup, on va changer l'ordre de mes brèves. Du coup, toujours Bruno, mais cette fois Bruno demande. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais parlé de ce super jeu qui consiste à ce que Bruno demande quelque chose au patronat en général et que le patronat ne fasse pas. Et du coup, cette semaine, Bruno demande, c'est que Bruno demande... Enfin, alors, c'était au moment où il a annoncé l'augmentation des taxes pour les sociétés d'autoroutes qui font du super profit. Enfin, du super profit, en gros, qui s'en mettent plein les fouilles sur des autoroutes qui ont été remboursées depuis bien longtemps. Et il avait annoncé à ce moment-là, mais ne vous en faites pas, nous augmentons les taxes, c'est uniquement pour ronger un peu sur leurs profits. Il n'y aura pas d'augmentation de tarifs. Et devinez ce qui s'est passé ce matin. Le patron de Vinci, donc Vinci Autoroute, hein, la branche autoroute de la société Vinci, a déclaré qu'il y aurait des répercussions sur les prix des péages. Voilà, Bruno demande, Bruno a encore raté.
Cette semaine, action coup de poing des députés écologistes à l'Assemblée nationale. Il et elle se sont levés en même temps, arborant fièrement un t-shirt Global Warming lors de la séance de questions. La présidente de l'Assemblée nationale, pro-Macron, qui pense qu'il faudrait pendre tous les écologistes tant qu'il reste encore des arbres, leur a intimé l'ordre de se rhabiller immédiatement. Fièrement, les députés restent debout et ne bougent pas d'un pouce. Jusqu'à ce que la présidente les menace d'un rappel à l'ordre équivalent à une baisse de salaire. Là, tout le monde a remis sa veste et s'est rassis. Ouf, on a eu chaud et on aura encore chaud. La canicule a de beaux jours devant elle.
Et gouvernement toujours, le plan de lutte contre le harcèlement scolaire était inscrit ce matin, enfin était annoncé ce matin par Bruno, si je ne me trompe pas, Bruno Attal, qui comptait...
Gabriel,
perdu.
Tout le monde ne peut pas s'appeler Bruno.
Merde, Gabriel Attal. Du coup, il va inscrire des cours d'empathie dans le cursus scolaire. Alors au début, je me suis dit que ça nécessitait pas de, de faire plus de commentaires que ça, c'est-à-dire que vu le marasme dont on parlait la semaine dernière, mais en fait, en réfléchissant bien et puis en regardant un peu ce qu'il en était, je me suis rendu compte que peut-être que si, c'était nécessaire. Du coup, en soi, les cours d'empathie, bah, c'est un truc qui marche, en tout cas dans les pays du Nord, c'est déjà des trucs qui sont pratiqués pour lutter contre le harcèlement scolaire. Et ça a l'air de marcher relativement bien. Mais quand on connaît l'état du système scolaire français, on se demande si avant d'essayer d'apprendre l'empathie aux millions d'élèves qui viennent chaque année rentrer dans les portes de l'école, on ferait pas mieux d'apprendre l'empathie aux quelques professeurs qui sont censés les encadrer et au personnel des... j'allais dire EHPAD, des...
Mais, l'éducation.
Des, oui, enfin des rectorats qui sont censés encadrer ces quelques profs. Et il n'y a plus de...
De brève, non.
Non, mais il n'y a même plus de bande.
Canu Info. Du mercredi.
Et on va faire un tour du côté de l'Italie. Ouh, eh bien, Meloni a sorti un peu l'artillerie lourde, en tout cas dans ses annonces, pour dit-elle, faire face aux exilés qui arrivent à Lampedusa. Et elle souhaite, alors, donc dans ses mesures, elle souhaite passer d'une durée de rétention maximale qui est aujourd'hui de 135 jours à 18 mois. C'était déjà le cas entre 2011 et 2014. Alors, si je me souviens bien, ça devait être la période de peut-être bien Berlusconi. 2014.
Arrête.
Ah, on sait plus. Ah, Berlusconi ou Salvini. Bref.
Salvini, c'était après.
C'était après. Bref, il me semble aussi que c'était pendant quand cette période-là était donc d'un an et demi, que en Italie, il y avait eu tout un tas de centres de rétention qui s'étaient mis à brûler un peu sous les actions collectives des retenus. Et c'est aussi parce que les gens étaient enfermés pendant hyper longtemps que ça permettait aussi aux gens de s'organiser et d'avoir encore plus les boules d'être enfermés. Donc forcément, avec cet allongement considérable, une augmentation du nombre de centres de rétention, parce que sinon ça servirait un peu à rien pour elle. Donc voilà, sauf que bon bah elle a pas des tonnes de thunes et en tout cas les caisses de l'État commencent à être vides. Elle a donc consulté Eugui les bons tuyaux et souhaite donc que les exilés déboutés du droit d'asile, que si les exilés sont déboutés du droit d'asile et qu'ils entament un recours, eh bien ils doivent payer une caution de 5000 euros ou patienter en centre de rétention le temps que leur recours soit traité. Bon, alors bien sûr, toute la gauche italienne hurle au scandale, tout ça. Et quand même, là où on peut avoir de la chance que ce décret tombe à l'eau, c'est que la Cour de justice européenne puisse annuler cet arrêté, car la Hongrie de Viktor Orban avait déjà essayé de pondre un tel arrêté en 2020 que la Cour avait annulé. Donc, affaire à suivre, on espère au moins que la Cour européenne nous serve à quelque chose sur ce coup-là.
Le
plus rebelle des radios.
Canu Info.
Et notre président était hier justement en Italie, une histoire d'enterrement. Et comme ça se fait dans les meilleures familles, les enterrements, c'est l'occasion de revoir des gens. Parfois des gens avec qui on est censé pas trop bien s'entendre, avec qui on a eu des petits accrochages par le passé. Et puis c'est l'occasion de reprendre contact, des fois de se pardonner des choses qui finalement sont des détails, et de se rendre compte qu'en fait, non seulement on s'aime bien, mais qu'en vrai, on pense pareil. Mais c'est donc exactement ce qui est arrivé. Pendant son séjour à Rome, Macron a eu un échange bien cordial avec Meloni, la chef du gouvernement italien. Alors si on avait oublié, on vient de vous le rappeler, hein, l'Italie est un pays clairement gouverné à l'extrême droite par une fan de Mussolini, même si elle ne le dit plus trop depuis la campagne électorale qui l'a amené au pouvoir. Mais bon, on le sait. Rappelons qu'en plus d'être issu d'un parti, comme on dit, anti-immigration, pour parler poliment, Meloni est aussi assez clairement homophobe, défenseuse de toutes les valeurs les plus dégueulasses du répertoire traditionnel, et bien sûr, climato-sceptique, puisque généralement, ça fait un pack. Alors bien sûr, juste après qu'elle ait été élue, la France a commencé par se faire un peu, par se montrer un peu hautaine, quand même une fasciste, il fallait garder un peu de distance, ça c'était au départ. Alors malgré tout, dès le départ, pas trop de distance non plus, surtout que Mélanie n'était pas anti-européenne et aussi elle n'était pas fan de Poutine, et que ça, bon, il fallait quand même savoir ménager ce côté-là. Après, ça a été un statu quo pendant quelques temps, et puis Darmanin nous a fait son coup habituel avec les fachos, hein, c'est-à-dire qu'il a dit publiquement qu'elle était nulle, pas parce qu'elle était fasciste, mais parce qu'elle n'était pas assez. Le problème de Darmanin, c'est qu'il y a de plus en plus d'arrivées, le problème en tout cas que considère Darmanin sur l'Italie, c'est qu'il y a de plus en plus d'arrivées de migrants en Italie, alors il en a profité pour se foutre de sa gueule, comme quand il avait dit à Le Pen qu'il la trouvait trop molle. Darmanin, sa méthode pour combattre le fascisme, c'est de dire partout que lui aurait été encore plus dur. Bon, mais voilà, tout ça de tout. Après cette sortie de Darmanin, ça avait quand même été une petite. Une petite froisserie diplomatique entre la France et l'Italie. Mais tout ça, c'est bien, bel et bien du passé. Entre-temps, Mélanie avait déjà été reçue à l'Elysée et maintenant, Macron affiche autant que possible sa très bonne entente avec elle. Copains comme cochons, les deux. Et donc leur bon point d'accord, c'est la priorité pour que l'Europe limite les départs de migrants à la base. Alors ils ne sont pas tout à fait entendus sur quoi faire avec les migrants qui sont arrivés à Lampedusa. Donc 6000 personnes, attention, l'Europe est à feu et à sang parce qu'il y a 6000 l'Europe qui... combien y a de millions d'habitants en Europe ? Personne ne sait, mais plusieurs centaines de millions.
450.
450 millions, merci. Et là, bon, 6000 personnes arrivées à Lampedusa, tout le monde est en PLS. Mais là-dessus, quand même, ils sont pas tout à fait d'accord, puisque quand même, personne les veut, quoi. L'Italie veut les faire dégager dans n'importe quel autre pays, mais la France, comme n'importe quel autre pays, a dit non, non, non. Nous, s'ils viennent chez nous, attention, c'est le grand remplacement, c'est l'insécurité culturelle, tout ça. Il n'en est pas question. Mais par contre, là où ils sont d'accord, c'est que de toute façon, ça reste un petit problème, puisque la priorité, c'est le fait que l'Europe limite les départs des migrants à la base et facilite leur retour. Alors pour ça, c'est pas, par exemple, faire en sorte que le changement climatique qui fait qu'il y a des énormes régions du monde qui deviennent inhabitables soit un peu freiné. C'est pas non plus faire que les choses puissent se passer agréablement pour les populations dans les pays de départ. Non, dans un entretien de dimanche, Emmanuel Macron avait proposé que pour qu'on file des aides à ces pays dits de départ ou de transit, qui sont globalement les pays qui bénéficient de ce qu'on appelle l'aide publique au développement, pour leur filer cette aide publique au développement, on met des conditions, et des conditions en termes de fermer des frontières.
Ah, c'est pas leur filer plus de thunes, c'est leur filer moins de thunes possiblement.
Non, ouais, mais de toute façon, c'est pas la peine de se leurrer, quand on file de la thune à ces pays, en vrai, ça va pas pour améliorer le sort des populations qui y vivent. Généralement, ça va plutôt améliorer les comptes en banque des dirigeants. Parce que ces aides sont quand même bien ciblées. Mais et donc là,
quand elles sont pas déjà soumises à tout un tas de conditions.
Oui. Alors des conditions diverses et variées, où généralement les libertés publiques en font pas tellement partie. Mais là, du coup, ça serait en plus des conditions d'avoir des gardes-côtes mieux formés, d'avoir des frontières mieux fermées. On va leur filer de la thune, mais on va direct leur vendre du barbelé qu'ils pourront acheter avec une partie de cette thune. Et là, pour le coup, Mélanie, elle est fan. Le Monde nous dit « L'idée d'un programme diplomatique d'investissement et d'aide financière dans les pays de transit et d'origine en contrepartie d'une diminution du nombre de départs illégaux est le pilier du plan promis par la dirigeante italienne pour lutter contre l'immigration illégale, le plan qu'elle avait promis au moment de son élection. Sa traduction concrète doit être dévoilée cet automne. » La méthode préconisée par Macron a déjà donné, par Mélanie, donc ce qu'elle avait annoncé au moment de son élection, en fait, elle a déjà pu, dans le cadre de l'Union européenne, elle a déjà pu en faire quelque chose. Et donc, ça a donné un accord avec la Tunisie qui a été signé au mois de juillet. La présidente du Conseil italien, toujours d'après Le Monde, a été une force motrice dans la négociation. Alors oui, c'est vrai que la Tunisie est dirigée par Kais Saied, qui n'est pas exactement le modèle de ce que traditionnellement l'Europe voulait promouvoir comme type de gouvernance. C'est-à-dire que les élections avec Kais Saied, c'est un peu vite fait, vite vu. Il a plus trop envie d'avoir des gens qui s'opposent à lui. Et il remporte ça bien fastoche. Et puis si les gens veulent s'opposer quand même, généralement il reste pas bien longtemps en liberté. Filer de la thune, ça peut paraître un peu problématique. C'est vrai que le système de former et de financer des gardes-côtes, on a vu et on vous raconte régulièrement ici ce que ça donne en Libye, où quand même ça arrive que les migrants ils préfèrent vraiment mourir noyés que d'être repris par les 10 gardes-côtes. Mais c'est quand même pas pour ça qu'on va pas le faire, parce que les opinions publiques elles veulent plus, blablabla, l'immigration, blablabla, sa mère les opinions publiques, putain.
C'est ça.
Ah ouais, j'ai pas le droit de dire ça, non. Non, mais merde, je me suis encore trompé. Il y a encore quelques semaines, on pensait que Meloni était l'équivalent italien de Le Pen. C'était comme ça que les analystes la présentaient globalement en France. En plus, c'est une femme, tout ça. Mais depuis quelques semaines, et encore plus depuis quelques jours, on se tue à nous répéter, les macronistes comme les rassemblements nationalistes, comme les journalistes, que non, en fait, c'est pas ça. L'équivalent italien de Le Pen, c'est Salvini, qui est un ministre de Meloni quand même. Lui, au moins, c'est un vrai faf. Lui, quand les bateaux de migrants arrivent, il ne veut pas discuter avec l'Europe, il veut les torpiller. Et Mélanie, la mussoliniste, alors ? Personne ne veut le dire exactement comme ça, mais bel et bien, on le comprend quand même de plus en plus entre les lignes. C'est bel et bien l'équivalent italien de Macron, tout simplement. Bon, qui s'en étonne et qui d'entre nous retournera à la première occasion en France, cette fois, voter Macron, Darmanin ou Édouard Philippe pour faire barrage à l'extrême droite ?
Canu Info.
Et on va du côté de l'Argentine et c'est-à-dire que comme tous les candidats, alors lui se nomme candidat anti-système, c'est Javier Milei en gros c'est un peu un espèce, on le nomme en Argentine le Bolsonaro de l'Argentine. Donc on dirait un gars d'extrême droite quoi, qui est largement donc favori dans les sondages parce qu'à priori il n'y a pas que en Europe que les réacs ont le vent en poupe et qui a annoncé qu'en cas de victoire
l'Argentine
il abrogerait,
c'est une habitude chez eux,
il abrogerait le droit à l'avortement. Oui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que chez eux qu'il abrogerait le droit à l'avortement. Ce droit est pourtant tout récent dans l'histoire du pays puisqu'il a été arraché par les féministes en décembre 2020, mouvement nommé la marée verte par rapport à la couleur choisie pour symboliser ce mouvement. Les organisations féministes appellent déjà à une grande manifestation jeudi 28 septembre en réaction. Et le candidat Javier Milei a déjà donné le ton lors des primaires en voulant donner transformer le concept juridique de féminicide. Donc on sait pas exactement comment, mais on sait juste que c'est craignos la quelque manière que puisse être fait, et souhaite supprimer l'éducation sexuelle à l'école. Disons que cette éducation sexuelle à l'école pose beaucoup de problèmes décidément partout à travers le monde, à voir peut-être au REAC qui arrive au pouvoir. Les féministes qui appellent à retourner dans la rue précisent, je les cite, ce n'est pas une réponse à Milei mais que nous faisons, mais une affirmation de nos droits. Et c'est l'heure de la pause musicale.
Ah ouais.
qu'elle s'appête. Oh Romani, 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 oh Romani.
De Vénitieux, j'imagine, dans les années 80. Les années 80, franchement, c'est la meilleure décennie de la musique du monde. C'était Carte de séjour, c'était Rachid Taha qui chantait. La chanson s'appelle Roro Mani.
Alors, quelques nouvelles du Kurdistan. Revenons sur ce qui s'est passé la semaine dernière au Kurdistan du Sud, c'est-à-dire au nord de l'Irak. On avait évoqué la frappe de drones turcs qui avait abouti à la mort de 3 membres de l'UPK, Union pour le Kurdistan. Pour rappel, l'UPK est une des 2 forces officielles qui contrôlent ce territoire du Kurdistan autonome au nord de l'Irak. L'autre étant le PDK de Barzani, Parti démocratique du Kurdistan, qui s'est dernièrement fortement rapproché du pouvoir turc. Ce qu'il y avait d'étonnant dans cette attaque de drone sur l'aéroport de Souleymaniye, c'est que d'ordinaire, la Turquie concentre ses attaques sur son ennemi juré, le PKK, Parti des Travailleurs Kurdes, guérilla dont les bases se trouvent dans les montagnes au nord de l'Irak. Quel était le but donc de cette attaque ? Attaque qui risquait de créer un rapprochement net entre l'UPK et le PKK et ainsi unifier 2 mouvements politiques et armés contre la Turquie. La situation s'est éclaircie depuis peu. En effet, le ministre turc de la Défense a cette fois ouvertement menacé Bafel Talabani, le chef de l'UPK. Le ministre turc lui a ordonné de rompre les liens avec les terroristes, sous-entendu le PKK, en déclarant « Sinon, ça ne se finira pas bien pour vous ». On peut clairement y voir des menaces de mort à peine voilées. Ce même ministre a aussi précisé que ses services étaient très bien informés de la situation au nord de l'Irak, d'autant plus qu'il partageait activement ses renseignements avec la 2e force légale autonome de la région, le PDK. On peut donc en conclure que l'objectif de la Turquie avec une attaque de grande ampleur dans la région pour essayer d'éradiquer le PKK, qui est à l'origine des forces autogestionnaires kurdes du nord et de l'est de la Syrie, pourrait correspondre avec l'objectif du PDK de Barzani de prendre seul le contrôle de la région autonome du nord de l'Irak si la Turquie, en faisant d'une pierre deux coups, attaquait aussi l'UPK de Talabani. Affaire à suivre. Iran maintenant. On apprend aujourd'hui, suite à un rapport de l'organisation Human Rights Iran, qui a compilé et recensé les blessures des manifestants lors du mouvement Femmes Vie Liberté de l'année dernière, que les yeux des femmes étaient délibérément visés. Le nombre de femmes éborgnées est énorme. Aujourd'hui, elles réclament justice. Ce rapport devrait être sous peu transmis à la commission de l'établissement des faits de l'ONU. Ensuite, on part au Rojava pour finir. Cette semaine, la région d'Asaké, région désormais plutôt à l'abri des combats, a été le théâtre d'affrontements à l'arme lourde, poussant des dizaines de familles à se réfugier plus au nord et à l'est de la Syrie, plus près de la frontière turque, alors que celle-ci avait déjà fait le chemin inverse. Pour une fois, ces affrontements ne sont pas dus à des attaques de la Turquie ou de ses supplétifs syriens. Non, cette fois-ci, il s'agissait de combats entre une milice pro-gouvernement syrien et l'armée syrienne de Bachar el-Assad. Cette situation serait survenue suite à un conflit interpersonnel entre un des chefs de la milice et un chef de l'armée régulière de la Syrie. Suite à cette dispute, le gouvernement syrien a intimé à la milice de quitter certaines de ses positions, ce qu'elle n'a pas accepté. Résultat des affrontements à l'arme lourde, des maisons détruites et des morts parmi les civils. Voilà donc un exemple représentatif de conséquences de simples disputes dans des régions où les armes prolifèrent.
Radio Canu.
La plus rebelle des radios.
Canu Info.
Alors on vient de m'informer qu'hier a été diffusé le film de Caroline Fourest sur les combattantes kurdes, qui s'appelle, je sais plus,
Sœur d'armes,
voilà. Bien vu, on voit que vous connaissez vos classiques.
Ah, c'est Caroline Fourest, on est fan.
On connaît notre Caroline Fourest.
Alors du coup, je tiens quand même à rappeler que ce film est non seulement bourré d'erreurs, que ce soit sur la chronologie des faits, ou sur même les uniformes et les écussons des uniformes, mais en plus, il y a eu un communiqué des femmes combattantes kurdes et leurs amis internationalistes pour dire que ce film, il ne fallait absolument pas le voir, que tout ce qui était dit dedans était faux, et que Caroline Fourest n'était sûrement pas une amie des Kurdes, puisqu'elle était plus précisément, vraisemblablement, une amie peut-être de l'extrême droite, mais ça, je ne sais pas.
Mais quand tu dis qu'au niveau des écussons, c'est faux, ça veut dire quoi ?
Ben, c'est-à-dire qu'elle a mis en scène des femmes kurdes, des YPJ, qui combattaient au Rojava, et en fait, les YPJ ont un écusson. Et alors je sais pas si c'est une volonté ou elle s'est trompée, elle leur a mis l'insigne des Peshmerga irakiens. Donc ce qui est les Peshmerga, on en a parlé tout à l'heure, c'est actuellement ceux qui sont rapprochés du gouvernement turc pour justement attaquer le PKK dont les amis sont les YPG et les YPJ. Donc c'est quand même vraiment, elle leur a mis quasiment l'écusson de l'ennemi, quoi.
Allez, une dernière petite info. Il existe un traitement préventif contre la bronchiolite. Vous voyez, la bronchiolite, c'est cette maladie qui arrive avec l'automne et qui, chez un
C'est ça. Bel exemple. C'est ça la bronchiolite.
Ouais. C'est ça. Mais chez moi, c'est pas grave parce que.
Enfin, bientôt,
c'est
juste ça va être grave.
Chez un petit. Non, bah quand même, il faudrait que je rajeunisse pour ça.
Donc tu deviens beaucoup plus vieux.
C'est juste chez un petit pourcentage de nourrissons et pas de vieux qu'elle peut prendre une forme grave. L'année dernière, vu l'état global des hôpitaux français, l'épidémie, qui n'était quand même pas plus grave que d'habitude, avait saturé tous les services pour les Minus en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Cette année, figurez-vous que Sanofi vient de mettre en vente un traitement préventif. Une petite picouse et le nouveau-né diminue de 80% son risque de faire une forme grave de la bronchiolite. Ça s'appelle Befortus, et les gens qui kiffent la France sont vraiment très contents qu'un labo français ait enfin trouvé un truc pour la première fois depuis un sacré paquet d'années.
Ce qui, pour le coup, est une très bonne nouvelle, quand même, sur le plan sanitaire.
Le Befortus, oui, tout à fait. Le fait que ce soit un labo français ou pas, par contre...
Ça, on s'en fout. Non, mais ce que je veux dire, ça fait pas de doute que ce soit une bonne nouvelle que les gamins soient
fait
contre ça. Quoi.
Et alors, pour le coup, ça fait partie des choses où nous, on trouve que c'est une bonne nouvelle, mais même le gouvernement trouve aussi que c'est une bonne nouvelle. Eux, bien sûr, c'est parce que...
Ils sont d'accord avec nous.
Ça peut arriver des fois qu'on soit d'accord sur des trucs. Hein.
Eux, ça fait partir en cacahuète à un moment, c'est ce que je veux dire.
Non, mais alors eux, en fait, surtout, ils espèrent qu'on verra moins que chaque maladie qui débarque, voire chaque maladie qui revient de manière saisonnière, met le système de santé français au bord de la rupture. Sauf que c'est un peu con, parce que 10 jours après la mise sur le marché du Befortus, il n'y en a déjà plus. Alors, restrictions par-ci, comment se réserver aux hôpitaux par-là. Bon, si vous avez un machin qui vous braille dans les bras depuis moins d'un mois, dites-vous que vous conservez quand même une bonne chance pour que la bronchiolite vous en débarrasse dans les semaines qui viennent. Tout ça parce que le gouvernement s'est attaqué au problème, des pénuries de médicaments et confier la gestion de quoi que ce soit à des macronistes, c'est immanquablement mettre toutes les chances contre soi.
Et du coup, on a fini.
Du coup, on a
fini. Grave. On va aller boire des bières.
C'est pour ça que tu fais moins d'infos qu'avant.
Et on se retrouve. et on se retrouve la semaine prochaine. Et vous vous retrouvez dans une vingtaine de minutes. Idée noire. Merci de nous avoir écoutés.
Ciao, bye bye.
Bonne soirée.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.